Je voudrais simplement ce matin placer devant vous une réflexion en ce qui concerne l'autorité du croyant. Je crois que dans notre société un peu maintenant matérialiste et moderne, il y a certaines choses de la parole de Dieu que nous avons tendance à peut-être à négliger maintenant à cause des difficultés que nous rencontrons, à cause des luttes, peut-être parfois même les silences de Dieu et... Mais il est quand même important que, par rapport à la parole de Dieu, nous puissions savoir réellement ce que nous avons le droit de croire. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 9 et au verset 1er, Genèse 9, 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel » et pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. J'aimerais ce matin donner quelques témoignages, quelques points par rapport à notre marche chrétienne, par rapport aux choses de la vie sur l'autorité que nous avons à manifester. Vous savez qu'il y a trois situations que vous rencontrez, que nous rencontrons dans la vie chrétienne. Il y a le moment où il nous faut exercer l'autorité, par exemple Jésus dans la barque, la tempête arrive, il commande et la mer se calme. Ça, c'est l'autorité. Il y a également quand... les Hébreux sont attaqués par l'armée ennemie. Josaphat, il propose un jeûne collectif, etc. Et il fait prier tout le monde. Il y a la prophétie, etc. Là, il ne bouge pas. Il loue. Il met des chantres et il loue le Seigneur. Et à ce moment-là, pendant qu'il loue, pendant qu'il reste dans le calme et dans la confiance, Dieu travaille à la place. Ça, c'est le deuxième aspect. Et puis, il y a également, par exemple, les trois compagnons de Daniel qui sont mis dans le feu. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, il n'est pas question qu'on se prosterne devant ta statue. Notre Dieu nous délivrera, mais s'il ne nous délivre pas, on ne se prosterne pas. Ils étaient prêts à jouer leur vie. Et là, Dieu ne leur a pas épargné l'épreuve, Dieu ne leur a pas épargné le feu. Mais dans le feu, eh bien, l'ange est venu, et dans le feu, là, ils ont été préservés. Donc, au travers de l'épreuve même, et Dieu ne leur avait pas enlevé l'épreuve, et il y a des moments où l'épreuve ne vous est pas enlevée, l'épreuve n'est pas supprimée, elle est là, mais cette épreuve-là, elle rentre sous le contrôle de Dieu. C'est ce que nous avons déjà dit plusieurs fois, c'est que l'épreuve, les épreuves que vous pouvez rencontrer, les circonstances que nous pouvons rencontrer, rentre dans ces trois catégories. Ou apprendre à exercer notre autorité d'enfant de Dieu, au nom de Jésus, chasser les démons, proclamer certaines choses, ou au contraire, apprendre à nous reposer sur Dieu en proclamant sa souveraineté sur les circonstances qui arrivent, ou alors, enfin, troisième étape, où je suis obligé d'avaler, la couleuvre. En un mot, je suis obligé de passer par l'épreuve. Et là, il y a un travail en profondeur de sainteté, de sanctification, de purification dans ma nature profonde. La souffrance que j'endure à cette pédagogie de Dieu pour user ce qui est la vieille nature et me rendre progressivement semblable à Christ. Jésus lui-même, pour le rappel, a été élevé à la perfection par les choses qu'il en souffre. Ça vous explique que parfois vous avez des souffrances qui ne sont pas enlevées. Seulement dans ces souffrances, Dieu, la parole de Dieu dit que rien n'est au-delà de vos capacités, donc Dieu nous aidera aussi le moyen d'en sortir, mais on les rencontre. Et il faut parfois, et il y en a qui elles, pensent que la vie chrétienne, il n'y a jamais de lutte, jamais de souffrance. Non, il y a parfois, Dieu permettra que vous passiez au travers de l'épreuve, au travers du feu. Mais il y a, pendant toute cette période difficile, il y a toute une transformation qui se fait au niveau du caractère, transformation. Je ne parle pas seulement au niveau jugement ou aux disciplines de Dieu. Dieu peut nous faire passer par des épreuves pour changer nos caractères, nos désobéissants, notre esprit indépendant. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi, tout simplement, Dieu permettra, comme il a fait pour Jésus, qui n'avait jamais péché, mais Jésus, dans son humanité, avait besoin, lui aussi, dans son apprentissage en tant qu'homme à la soumission de son Père, eh bien, Jésus a dû apprendre par les choses qu'il a souffertes, il a dû apprendre l'obéissance. Et dans votre vie, dans la mienne, il y aura des choses qu'il faudra accepter de souffrir, parce que c'est le test aussi de votre engagement, mais c'est aussi une pédagogie qui parfois nous fait très très mal, mais au travers de... Rappelez-vous l'huître, hein, l'huître, le grain de sable dans l'huître, eh bien quand le grain de sable est là, alors l'huître, ça irrite l'huître. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle sécrète un suc autour de ce grain de sable, et hop, elle a moins mal. Mais progressivement, ce suc se durcit, alors hop, elle est obligée de refaire du suc. Et progressivement, vous avez la perle, hein, qui se fait. Mais donc la beauté de la perle sort de la souffrance de l'huître. Et la beauté de votre caractère ne pourra venir que par la souffrance. C'est malheureux, on n'aime pas ça. Hein. On n'aime pas ces choses, mais c'est une réalité. Hein. Jésus lui-même a été élevé à la perfection par les choses qu'il a souffertes. Alors, j'aimerais quand même ce matin, simplement, dans un petit point, parler un petit peu de l'autorité, maintenant sur le terrain de l'autorité et pas sur le terrain de la souffrance. Le terrain de l'autorité. Dans le livre de la Genèse que nous venons de dire, eh bien, Dieu bénit Noé et dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, vous serez un sujet de crainte et d'effroi » pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Il y a des moments, je me rappelle quand je me suis converti, quand on commence à évangéliser à droite, à gauche, distribuer des tracts, aller dans les maisons, etc. Je me rappelle un jour, j'étais rentré dans une maison, je n'avais pas fait attention et il y avait un panneau où il y avait marqué « Attention, chien méchant ». Et je n'avais pas fait attention, et je rentre dans la cour de cette villa. C'était dans le midi de la France, et je rentre, et tout à coup, il y a deux énormes bulldogs, là. Vous savez, vraiment pas sympathique, hein. Qui arrivent, ta-ta-ta-ta-ta, du fond de la cour, je les vois, et je vois, j'ai réalisé que j'avais plus le moyen de me sauver, hein. Et ils arrivaient à fond de train. Et... J'étais tout jeune, je venais d'être baptisé dans le Saint-Esprit, vous savez, on a des fois des réactions qu'on n'a pas trop compris encore, mais c'est spontané, hein. Et tout à coup, ces deux chiens m'ont sauté dessus. Et moi, alors, je dois reconnaître que ça devait être plus la trouille que la foi. Mais j'ai dit, au nom de Jésus! Et à ce moment-là, j'ai vu, hein, le premier étonné, ça a été moi, quoi. J'ai vu, au nom de Dieu, c'est comme deux mains invisibles, les deux bulldogs plaqués à terre. Il ne pouvait plus bouger. Ils étaient là. Eux, d'ailleurs, je me rendais compte, mais malheureusement, ils étaient aussi surpris. Ils étaient aussi surpris que moi. Et là, j'ai réalisé quelque chose que... J'ai réalisé qu'effectivement, vous serez un sujet... des fois pour tout animal de la terre. Quand on a fait les colos, hein, à Fraissinière, pour ceux qui connaissent les vieux de la vieille, je me rappelle, j'avais une équipe de jeunes colons. Et il y en avait un. Et lui, son truc, c'était toujours les serpents, les couleurs, les vipères. Il allait toujours là-bas dans les rochers. Pendant qu'on faisait on profitait des moments de sieste pour faire un peu des prières, baptême du Saint-Esprit, ce gamin-là s'est éclipsé, est parti discrètement de la tente et est allé dans les rochers. Et tout à coup, il est arrivé en courant, en se tenant la main. Il dit, il m'a piqué, etc. Il venait d'être piqué par, soi-disant, une vipère, l'infirmière. L'infirmière de la colo a effectivement marqué, dit oui, là. Il y a une piqûre, il faut l'emmener à l'hôpital. Essayez d'imaginer, on avait parlé aux enfants, on leur avait parlé de la foi, comme toujours, dans les colos, pour faire confiance au Seigneur, etc. Alors les gosses, on a dit, écoutez, on s'est mis autour de ce gamin-là, et toute l'équipe des 12, là, eh bien, on a posé nos mains sur le corps de cet enfant, il avait à peu près 12 ans, et hop, on a prié, Seigneur, que le venin s'arrête, qu'il n'y ait pas de mal. L'infirmière a descendu le gosse à Briançon, à l'hôpital. Pendant ce temps, les gosses me disaient, est-ce que Pierre, tu crois que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Bien, écoute. Quand l'infirmière est revenue, c'était assez intéressant. Le soir, nous avions un jeu de piste. Quand l'infirmière est revenue, elle a raconté que le médecin à Briançon avait effectivement, en regardant l'écartement de la morsure, c'était effectivement une morsure de vipère. Mais il était étonné parce que le venin ne montait pas. Le venin ne montait pas. Alors, par précaution, il avait quand même décidé de faire une piqûre en disant au gosse qu'il fallait qu'il reste allongé, par rapport à la réaction de la piqûre. Le soir, il y avait un jeu de piste nocturne, attaque nocturne, etc. Et voilà qu'on part avec son équipe, et voilà que le gamin nous rejoint à 10 heures du soir dans les champs, attaqué au flambeau. Hein, et il voulait absolument pas aller se coucher. Non seulement le venin n'était pas monté, mais en plus de ça, même la piqûre, même l'antivenin, le truc, n'avait fait aucun dommage, il n'avait rien senti. Je dis ça parce que je crois que c'est important de... Vous savez, j'avais entendu une fois ce témoignage de... Je crois qu'il s'appelait Gaston Racine, pour ceux qui le connaissaient. Il racontait qu'un jour, ils étaient avec des amis, ils étaient au large du Canada. Et ils faisaient de la plongée sous-marine. Et tout à coup, ils ont vu un requin. Un requin blanc, je ne sais plus trop quel, qui nageait entre les différents rochers. Et tout à coup, il a vu que le requin l'avait vu. Et il a voulu faire marche arrière, il a voulu revenir vite au bord, etc. Mais il se rendait compte qu'il n'avait plus le temps matériel pour venir. Et en même temps, il réalisait que le requin venait maintenant tranquillement à sa rencontre. Et là, vous savez, dans l'eau, il raconte donc qu'à un moment donné, ce verset de la parole de Dieu l'est revenu. Vous serez un sujet d'effroi pour tout poisson de la mer. Et il raconte qu'à ce moment-là, au lieu de fuir, perdu pour perdu, il a fait demi-tour et est allé à la rencontre du requin. Je ne sais pas si vous voyez ça. Les yeux dans les yeux, aller à la rencontre, et tu seras un sujet d'effroi pour tout poisson de la mer. Tu es un sujet d'effroi pour tout poisson de la mer. Tu es un sujet d'effroi pour tout poisson de la mer. Paf. Et il raconte que dernier moment, le requin est passé à côté et est allé plus loin et il n'a rien eu. Rappelle souvent, si vous voulez, par rapport au monde animal, je crois que c'est important de retrouver un petit peu. Nous sommes tellement marqués par à notre société, on a tous les moyens de protection, etc. Mais je crois que c'est important de retrouver cette simplicité. On rappelle en Afrique, il y a parfois des scorpions qui passaient sur les jambes. Hein. On n'a rien eu, des serpents qui sont passés, etc. On a parfois couché au milieu des rats. Moi qui ai horreur des rats, eh bien, Dieu a promis de protéger, Dieu nous a promis une autorité sur le monde animal. Il y a. Comment je peux dire encore ceci? Je me rappelle encore une fois, regardez, prenez l'exemple, en revenant à la Bible, prenez Paul. Avec le naufrage à Malte, hein, la vipère qui était accrochée à son bras, il la secoue et c'est fini. Daniel dans la fosse au lion. Vous voyez cette puissance J'aimerais cette réalité, cette puissance du surnaturel. Je pense qu'il est important de nous y habituer. De nous y habituer parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir le gros problème pour ensuite affronter. C'est un exercice qui commence tout petit, progressivement, et petit à petit, je vais pouvoir arriver à affronter un grand cas. Mais si je ne me suis pas exercé dans les petits terrains, eh bien, j'aurais pas la foi, j'aurais pas exercé ma foi sur le terrain de la marche. Je voudrais maintenant aller un petit peu plus loin. L'autorité sur le monde animal, j'ai pas le temps d'insister, l'autorité aussi sur le monde de la création. Je crois que ça aussi. Vous savez, quand on a ouvert l'église de Bourgoin, nous étions à peu près 20-25 jeunes à côté de Bourgoin, dans la campagne. Nous avions préparé un feu de camp avec des pique-niques, des sandwichs, et on avait, avec une équipe de jeunes, on avait distribué des invitations un peu à tous les jeunes de la campagne de Bourgoin. Guitare, feu de camp, tout était prêt dans une ferme à l'extérieur, etc. Et voilà que, au dernier moment, la réunion devait avoir lieu vers 19h, et voilà que vers 18h30, paf, la pluie s'est mise à tomber. Tout était par terre, fallait vite ranger les instruments, on avait mis la sonorisation à l'extérieur, et donc le feu, tout était fichu. Et on a dit, vite, on va vite ranger, c'est fichu, on va rentrer. Et puis là, il y a eu le réflexe, c'est pas possible, on a distribué, on a travaillé, Seigneur, tu peux pas permettre. Et alors, sans même trop réfléchir, on dit, allez, on se prend par la main. Et là, on s'est tous pris par la main. On a prié ensemble à haute voix. Seigneur, au nom de Jésus maintenant, que le vent se lève, que les nuages soient dispersés, que la pluie s'arrête et que cette soirée ait lieu au nom de Jésus. On n'avait pas fini. Vous allez voir, il y a à peu près 25 jeunes. On n'avait pas fini. Il y a eu une tornade, un vent, une bourrasque incroyable qui a commencé à secouer les arbres, les feuilles des arbres, hein, de partout. Un truc. En 2 minutes, la pluie s'est arrêtée et quelques instants après, les nuages ont été chassés et nous avons eu notre soirée. Et maintenant, il y a une église depuis des années. Je veux dire par là, il y a des moments où nous sommes aussi appelés à exercer notre autorité sur les éléments de la nature. Je reviens dans le camp de, par exemple, un exemple. Aussi, un jour, c'était à Fraissinière aussi, on cherchait avec les gosses, on était montés chercher des édelweiss. En haut, à 2000, vous savez, ces fichues fleurs, elles sont toujours très hautes. Et puis, sans s'en rendre compte, la soirée s'était approchée et nous voilà au-dessus du camp, sur les pierres, et un brouillard qui descend et la pluie commence à tomber. Vous savez que quand la pluie tombe sur les roches, c'est glissant, vous ne pouvez plus bouger. Donc il y avait ces 12 gamins qui étaient là. Moi, au milieu, je disais, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Et puis le brouillard qui nous a envahis, le brouillard qui nous a encerclés, on était là. Hein. Et en bas, dans la vallée, on voyait très loin le camp, la colo. Et là, de nouveau, vous savez, des fois, il faut s'y mettre, hein. Calmer, les enfants commençaient à avoir peur. On a dit, non, allez, on va prier. Le Seigneur est vivant. Allez, les enfants, on y va. Et là, 12 garçons ont prié. On dit, Seigneur, maintenant, que le vent se lève, que le brouillard soit dissipé, que la pluie s'arrête, au nom du Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien ce genre d'expérience peut marquer des enfants. On n'avait pas fini de parler qu'il y a de nouveau eu une bourrasque d'air, un vent, le brouillard qui était à couteau tiré, eh bien, paf, c'est comme déchiré. La pluie s'est arrêtée et tranquillement, faisant bien attention, nous avons pu redescendre dans le camp et on avait été gardés. Je veux dire par là que ce genre d'expérience, c'est quelque chose qui est à cultiver, c'est quelque chose qui est à entretenir. Ce sont des choses élémentaires de la vie qu'il faut absolument. Je vais raconter un jour, c'était à Bangui, là, Centrafrique. Ah, vous savez, au Centrafrique, il y a la mutinerie, hein. Vous avez entendu parler, donc hein, l'ancien président est au Cameroun et l'autre, bon, c'est pas sorti de l'auberge. Alors, il y a, eh bien, on était, je sortais, on avait fait un rassemblement, c'était une des premières fois que j'étais au Centrafrique et j'avais envie de prêcher à des multitudes, vous savez, la fameuse humilité du prédicateur, entre guillemets, hein, et j'ai dit aux frères, oui, ce serait bien, faire un rassemblement des églises pour faire un grand truc, etc., etc. Oh, les frères disent, oh, c'est vraiment, vous savez, je venais d'être nommé président de la mission, oh oui, ce serait bien, et patati, patata. On pourrait même en même temps brûler les fétiches, etc. Bon, d'accord, tout comment, ils préviennent les églises et l'après-midi, il devait y avoir un rassemblement en plein air avec, donc, en même temps, brûler les fétiches. Pensant être maître de mon sort, j'étais tout content, je dis, je vais pouvoir revenir en France, dire que j'ai prêché, hein. Mais comme toujours, vous savez, on calcule, on propose et Dieu dispose. Hein. Et puis voilà que vers 1h de l'après-midi, vous savez, en Afrique, ça va très très vite. À quelques minutes, là, le ciel a commencé à se noircir, les nuages ont commencé, c'était le commencement de la saison des pluies. Et puis, bon, la pluie est arrivée, vitesse grand V. Et alors, les gars m'ont dit, c'est pas possible, quand il y a la pluie, les gens ils viennent pas. Hein. Alors, j'ai dit, mais on va prier, vous savez, moi, bête, orgueilleux comme badeux, on va prier, la pluie va s'arrêter, on va commander, etc. Et la pluie a commencé, c'était devant la station missionnaire, il y avait tout un terrain qui nous était prêté par le président, donc la pluie tombait, je me suis mis dehors. Sur ce terrain, les mains levées, je me prenais pour Moïse, les mains levées et hop, commencer à commander, à ordonner au nom de Jésus que le vent se lève, que la pluie s'arrête, que les nuages soient dispersés, etc. Je hurlais, plus je hurlais, plus je me cassais la voix et plus je me cassais la voix, moi il y avait le résultat. Finalement, je me suis sorti de là, trempé comme une chaussette, la soirée a été annulée, etc. Et il n'y a rien de plus faire. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est que les choses, dans les choses de Dieu, ou dans la marche de Dieu, ce qui est important, c'est les motivations du cœur. Dieu n'est pas là pour faire... Ma motivation n'était pas juste, c'était l'orgueil qui était là, c'était la suffisance, je voulais moi aussi, hein. Et ça ne marche pas. Nous devons avoir de l'assurance dans notre cœur que ce que nous demandons, ou dans la marche dans laquelle nous faisons ces choses, sont dans les mains de Dieu. Et que la raison, l'esprit dans lequel nous le faisons, est un esprit correct, pas pour se mettre en avant, pas pour utiliser Dieu, mais toujours pour que Dieu nous utilise dans ce que lui a prévu. C'est extrêmement important. Je vais dire même quelque chose, il y en a qui peuvent vouloir utiliser la puissance de Dieu pour leur propre avantage, et ça peut finir par de la sorcellerie sans même s'en rendre compte. Dès que vous commencez à manipuler, à utiliser, voire même les choses de Dieu, apparemment c'est Dieu, mais à un moment donné, c'est parfois le diable qui prend le relais. Donc, ce qui est important dans l'exercice de l'autorité, c'est effectivement le fait de notre cœur, que la raison, que notre motivation soit juste. Si nous avons de l'assurance, dit la parole de Dieu, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance. Et quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons. Mais il faut aussi être clair pour comprendre que, hein, et il faut être vrai. Problème sur la matière. Il y a... Vous savez qu'en réveil en Indonésie, là, quand il y a eu, dans les moments de réveil très forts, vous avez des choses étonnantes. On ne peut pas les reproduire tout le temps. Ça, c'est encore la souveraineté de Dieu. Mais vous connaissez ce témoignage qui avait été donné par cette équipe d'évangélisation d'Indonésie. Ils étaient arrivés au bord d'un fleuve. C'était la crue et c'était la saison des pluies. Et il fallait qu'ils traversent une rivière et il n'y avait pas moyen. Alors, il y a un des gars qui dit, un des gars de l'équipe dit, mais moi j'ai la conviction qu'on peut traverser. Les autres lui ont dit, non, non, bouge pas, attends qu'on ait tous la même conviction, etc. Mais le gars, il n'a pas écouté, il a filé dans l'eau. Il a voulu l'arrêter, il a filé dans l'eau, et le gars, il a continué au milieu de la rivière, 50 mètres plus loin. Il se tourne vers eux, et il tape du pied. Et il dit, venez, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Les paysans qui étaient là savaient qu'il y avait 25 mètres d'eau sous ses pieds. C'est dur, c'est dur. Les gars sont allés, il y avait des paysans qui ont voulu suivre. Ils ont dit arrêtez, non. Et un des gars, un jeune, a quand même voulu filer, qui n'était pas chrétien. Il est allé sur l'eau, quand il est arrivé, il a coulé à pic. Il y a, si vous voulez, la notion de la matière. Quand vous prenez Josué qui dit au soleil, arrête-toi. Quand vous prenez les degrés de l'ombre d'Ézéchias, quand vous voyez ce pouvoir de Dieu sur la création, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer, c'est quelque chose qu'il faut absolument rentrer dans nos normes. Nous sommes tellement conditionnés maintenant par nos critères scientifiques, nos critères rationnels, qu'il nous faut absolument nous dégager aussi de ces choses-là et prendre cette notion. Je vais vous montrer un exemple. Un jour, j'étais avec un frère que vous connaissez, on va peut-être apprendre à le connaître. Nous étions quatre couples en train de voyager aux États-Unis. Parmi ces couples, il y avait Daniel Hermenot, certains connaissent, avec sa femme. Il y avait Michel, ma femme. Il y avait Abezetzer, de trucs. Et il y avait Tressel, également avec son épouse. Et on voyageait d'église en église, et à un moment donné, on était vers le nord, vers la frontière du Canada. Et on a dit, on voudrait voir les chutes du Niagara. Alors, n'oubliez pas, alors, comme loger côté américain, il a dit, n'oubliez pas vos passeports. Et comme toujours, vous savez, les pasteurs, ils sont bons pour donner des directives, mais il y en a un, c'était Daniel Lerno, il avait oublié son passeport. Et nous voilà, avec l'estafette devant le poste de douane, du Canada. Le gars tire le truc, vos passeports, et on lui explique, écoutez, il y a voilà, un collègue, on est pasteur, vous savez, pas impressionner les douaniers, hein. Les pasteurs, ça ne les impressionne pas beaucoup. Hein. Alors, j'ai dit, écoutez, on ne va pas revenir, on habite à 100 km d'ici, on ne peut pas faire, on veut juste aller voir les chutes du Niagara, on ne veut pas savoir, allez voir le chef. Alors, nous descendons de l'estafette, nous rentrons dans le bureau, en priant, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et au moment où, là, le chef était assis au bureau, et il dit, vous voulez quoi? Et au moment où on commence à lui expliquer, un gars rentre, un autre collègue rentre, et les deux qui s'attrapent, qui se disputent, l'un, l'autre, ils se disent leurs quatre vérités, je ne sais plus trop quoi. À la fin, le chef, encore tout énervé, et vous, alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez, allez, allez-vous-en. Nous, on sort. Alors, le gars, alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit d'aller. Et on a traversé la frontière, mais alors pour revenir maintenant. Alors on a traversé la frontière et on visite les chutes du Niagara et on a dit on va passer par un autre endroit. Et là, de nouveau, on arrive avec l'estafette et le douanier ouvre. Et moi, je me rappelle, il y avait le conducteur à côté, un autre frère est descendu de la voiture, il a imposé les mains derrière au douanier. Je dis si jamais le douanier se retourne, on est tous en tôle. Hein. Il était là et le douanier prend, écoutez j'ai assisté, je l'ai vu, hein. Il prend passeport, regarde, prend le passeport, 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 devant lui, il y avait Daniel Hermeau qui n'avait pas de passeport, il a récupéré les passeports de tous. Et il l'a pas vu, lui. Et il l'a pas vu. Pour vous garantir, il l'a pas vu. C'était alors qu'il était devant, assis devant. Il n'a rien vu. Il a redonné les passeports, refermé la portière.
et on est revenu. Et ce jour-là, j'ai compris comment parfois Dieu pouvait faire passer des Bibles aux yeux des douaniers. La puissance de Dieu a la puissance sur la matière. Pour vous montrer la puissance de la matière, c'est, prenez Moïse, quand il jette la verge qui devient un serpent. Les magiciens font pareil, hein, mais le serpent de Moïse avale les serpents des magiciens. Est-ce que vous pouvez réaliser qu'un morceau de bois, bâton, devient un serpent vivant? Est-ce que vous pouvez réaliser aussi, parce qu'on dit le diable, il n'a pas de pouvoir, moi je crois qu'il en a sérieusement, est-ce que vous pouvez réaliser que les sorciers ont fait pareil? Vous voyez qu'il y a donc de la puissance, qu'il y a une puissance sur la matière dans le monde spirituel. Rappelle, je ne sais pas si vous avez lu ce témoignage de Gottlieb Induthus, c'est le pasteur Blumhardt en Allemagne du siècle dernier. Il s'est arrivé, c'est un pasteur qui s'occupait d'une paroissienne. Il n'était pas du tout initié au combat spirituel, à la délivrance, etc. Et il raconte qu'on l'a appelé, et je résume, et à un moment donné, quand il priait pour cette jeune fille qui avait des voix, des flammèges, des trucs comme ça, il raconte que quand il lui imposait les mains, il y avait des morceaux de ferraille qui sortaient de sa tête, des morceaux de ferraille qui sortaient de son ventre. Et il disait, mais comment c'était possible? Cette jeune femme avait une marraine qui était sorcière, qui l'avait littéralement infestée quand elle était gosse, voulant en faire une reine de sorcière. Et plus tard, donc quand elle a été finie, après des 3 années, je crois, de lutte en équipe, etc., ben lui, Blumhardt disait qu'il était arrivé à cette conclusion que le diable aussi a un pouvoir sur les dispositions moléculaires de la matière. Le diable, c'est le singe de Dieu, donc, et que Dieu qui a créé, vous savez que Dieu crée tout par la parole, Dieu crée la matière, il n'y a rien, et que il faut quand même reconnaître que ces choses-là, cette puissance, que parfois le diable utilise, que les sorciers parfois utilisent. Regardez voir, un jour, c'était un Bangui, nous avions notre convention nationale, et il y avait un pasteur pygmé qui est arrivé. Et c'était un ancien sorcier, fils de sorcière, pygmé, et la télévision centrafricaine est venue pour enregistrer son témoignage. Et voilà, on était là, il y avait les caméras de la télé, et j'ai posé la question, il dit, explique-nous, qu'est-ce que tu faisais? Bah, le gars nous dit, je faisais la métamorphose. La métamorphose. Explique-nous. Bah, j'ai dit, tu te changeais en quoi? Ben, je me changeais en animal. Alors voilà, moi, hein, européen, cartésien, etc. Et tu te changeais en quel animal? Éléphant. Ah, je dis, écoute, tu vois tes poignets? Hein? Ah, il dit, vous les blancs, vous comprenez rien. Ah, je dis, alors explique. Alors le gars racontait, écoutez bien ça. Le gars racontait, il y avait là, la télé, hein, et tout, c'était pas... Le gars racontait que sa mère était sorcière et qu'elle avait cette capacité de guérir les femmes qui étaient stériles. Mais lui, quand il s'est marié, lui, à l'âge de 12 ans, a tué son premier homme. Il mangeait des bains de fétiche, mangeait de la viande humaine, etc. Parce qu'il voulait, il était appelé à prendre la succession. Et il dit qu'à l'âge de 12 ans, donc il a pour avoir un pouvoir, il a tué un bonhomme, un ennemi de la famille, et il a amené le cadavre au sorcier du village qui lui a donné, donc, je me rappelle plus loin, les dons pour se métamorphoser. Alors je dis, alors comment tu faisais? Ah, il dit, c'est simple. Il dit, il rentre dans la forêt, prenait certaines lianes, façon, les torsadait d'une certaine façon, prenait certains bois, le mâchait, ce qu'il appelait le bois fort en Mali, et puis il s'entourait de ces lianes et il appelait l'esprit d'éléphant. Et il dit, à un moment donné, l'esprit rentrait en lui. Et une force colossale le pénétrait. À partir de ce moment-là, il avait une force incroyable. Mais lui, les gens maintenant voyaient l'animal, mais lui, n'était pas changé. Lui était toujours physiquement comme ça, mais les gens voyaient un éléphant en action. Et rappelle un évangéliste à N'Djamena, Léon, qui me racontait dans son village, il avait 16-17 ans, quand je lui parlais de ces choses-là, il disait, mais écoute, il m'a dit, moi j'ai vu ça, quand nous avions des soirées de cérémonie en plein air, il y avait le feu de camp, il y avait de la viande qui était là, et les sorciers qui dansaient, hein, et puis tout à coup, devant tout le monde, deux sorciers se transformaient en animal, sautaient sur la viande et partaient avec, etc. Et il dit, je l'ai vu. Il dit, c'est pas des inventions. Je l'ai vu. Je veux pas... On peut discuter notre... Mais vous devez comprendre que... Alors, bon, je prends l'exemple de ce pygmée qui dit, mais que lui ne s'est pas vu changer, il n'était pas transformé. Les autres voyaient l'apparence, etc. Probablement qu'il y a là tout un ensemble. Mais vous devez comprendre que le pouvoir sur la matière... Si déjà le diable est capable de faire des choses comme ça, à combien plus forte raison Dieu, lui, qui est le créateur, hein, peut donner... Regardez quand Philippe a baptisé l'eunuque, hein, il l'a baptisé l'eunuque, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit l'a pris et l'a emporté à Asdod. Donc, vous voyez que le corps physique de Philippe, l'évangéliste, a été embarqué, vitesse grand V, d'une ville, d'un endroit à un autre. Vous devez comprendre qu'aux yeux de Dieu, la matière, tout reste sous le contrôle de Dieu, tout reste sous le contrôle. Et Dieu peut, par exemple, quand Jésus a multiplié les pains, est-ce que vous réalisez, quand Jésus a multiplié les pains, il a rendu grâce? C'est pas logique, c'est aberrant, mais c'est ce qui s'est passé. Plus de 10 000 personnes ont été nourries avec les femmes et les enfants. Hein? Est-ce que vous rendez compte qu'en prenant 5 poissons, 3 pains, je ne sais plus combien, eh bien de ce garçon, eh bien Jésus a rendu grâce, a rompu, et tout le monde a été nourri. Pourquoi est-ce que je souligne ça? Simplement pour vous montrer combien on est coincé intellectuellement, mentalement, par toute l'éducation rationnelle qu'on a reçue depuis notre enfance. Et ça, sans même en rendre compte, nous avons des barrages, nous avons des forteresses rationnelles. C'est pas logique, la scientifique, etc. Mais nous devons là aussi apprendre à aller au-delà de des choses. Bon, je prends encore ceci. Attendez voir. Je me rappelle bien, c'était la sœur Lambert. Vous étiez avec moi, là. Il y a des années en arrière, on allait à Bourgoin, c'était une petite église, et on faisait la navette en voiture, etc. Et un jour, on est revenu, il neigeait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il neigeait, c'était... Et on est arrivé, bon, sur l'autoroute et à l'entrée de Grenoble, on ne voyait plus. Il y avait, je ne sais pas moi, 30 cm de neige, c'était vraiment la tourmente, etc. Et avec la voiture, au moment où on arrive à la fourche de... Vous savez, oui, l'autoroute d'un côté Bastille, de l'autre côté la sortie, eh bien, il n'y avait plus, on ne voyait plus, avec tout était recouvert de neige, on ne voyait plus. Et au dernier moment, je ne sais plus trop, il y avait quelqu'un d'autre derrière, il y avait la sœur à côté de moi, puis dernier moment, je réalise et je freine, et sous la neige, il y avait la glace. Et voilà la voiture qui part à deux premiers demi-tours. Et tout à coup, j'entends la sœur Lambert, il dit, « Seigneur Jésus !» Vous ne me croirez pas. Vous ne me croirez pas. C'est comme si, pour moi, j'étais au volant. La voiture a fait un premier, et on allait se fracasser contre les barrières. Quand elle a dit, « Seigneur Jésus !» C'est comme si, elle ne l'a peut-être pas senti, mais moi, c'est comme si une main avait rattrapé la voiture. Quand il m'a dit, la voiture a refait un tour sur elle-même et on se retrouvait en route sur Grenoble. On a évité la barrière, on n'a rien eu. Je vais vous montrer par là un Seigneur Jésus au bon moment a une puissance sur la matière. C'est important de... Par exemple, aussi, vous savez, dans les hôpitaux, on se rend compte, par exemple, aussi que les plantes... Vous savez qu'on a... on se rend compte que quand dans des endroits où on lit beaucoup la Bible, ben, la plante, les plantes, les fleurs ou les plantes qui sont là, ont une puissance de régénération. Il y a une beauté. Quand on a cette expérience, il y avait une fois, ils avaient mis dans un service d'hôpital, ils avaient mis dans les chambres des malades, ils avaient mis les mêmes plantes. Et dans une des chambres, il y avait une malade chrétienne et des amis à elle venaient chaque jour lui faire la lecture de la Bible. Et chaque jour, ils faisaient la lecture de la Bible à haute voix parce qu'elle ne pouvait pas lire. Et au bout d'un an, au bout d'un mois, je ne me rappelle plus les circonstances, hein, je l'avais noté là, au bout d'un mois, la plante, les plantes qui étaient dans les autres chambres étaient là comme stagnées, alors que la plante qui était là, dans cette chambre, fructifiait, se développait, prenait une beauté. N'oublie pas que Jésus a parlé au figuier dans la malédiction. Mais n'oubliez pas qu'il y a la vie, que la puissance de la parole de Dieu a un pouvoir sur la matière, un pouvoir sur le monde végétal. Et je crois que c'est important que nous puissions là aussi nous habituer. Je vais terminer simplement en disant encore l'autorité sur la maladie. Est-ce que quelqu'un ici a un problème de dos, de vertèbre? Levez la main. Bon, venez voir un instant. Venez voir, je vais vous montrer quelque chose.
N'ayez pas peur.
De Dieu maintenant. Vous allez totalement guéri. Au nom de Jésus.
Bon, arrête là, papa. Je voulais simplement vous montrer. Simplement vous montrer. Le pouvoir, l'autorité sur... Alors en réalité, alors j'avais pas le temps, mais le toucher. Vous avez en tant que chrétien, vous avez l'onction de Dieu en vous et vous avez l'onction de Dieu qui vous accompagne. Donc selon ce que Dieu vous a donné, aussi Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc il y a des dons différents, complémentaires, que Dieu peut utiliser. Et eh bien cette onction, au moment, soit par l'imposition des mains, soit par une parole d'autorité, soit par un geste. Un jour à Bangui, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, eh bien il y avait une dame, s'était avancée, et elle était malade, elle avait problème, et puis elle était tendue, raide, comme un paquet, j'avais beau prier pour elle, ça ne marchait pas. Et tout à coup, il y a la petite voix au fond de moi qui me dit « Mais souffle sur elle !» J'ai dit ça, il se prend pour Bénin, etc. Et j'avais, vous savez, souffle sur elle. J'ai rien dit. Ici en France, j'aurais pas osé le faire. Là, j'ai regardé que personne ne faisait attention. Et là, très discrètement, et au moment où je souffle sur elle, la brave dame tombe par terre. Elle reste étendue 5 minutes par terre. 2 jours après, il y avait les témoignages au culte le dimanche matin, et je vois cette femme s'avancer. Elle raconte qu'elle avait depuis des années, elle avait des problèmes de migraine, que les médecins avaient essayé, qu'elle avait essayé toutes sortes de choses pour sortir, c'est ça, pour la guérir, il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien à faire. Et elle s'était avancée ce jour-là en disant, Seigneur, moi, surtout, Seigneur guéris, je ne peux pas t'imaginer un serviteur de Dieu qui vient de si loin, ne pas me guérir, vous voyez, le genre de foi, etc. Elle racontait qu'elle avait peur parce qu'elle avait vu quelqu'un tomber. Elle a dit, moi, je ne veux pas tomber. Et tout à coup, et c'est pour ça qu'elle était tendue, et tout à coup, quand j'ai soufflé sur elle, elle s'est retrouvée par terre. Et elle dit, elle était là, elle dit, qu'est-ce que je fais par terre? Et tout à coup, elle a senti une main. fouiller dans son cerveau, sortir quelque chose par son nez, évacuer. Elle était totalement guérie. Donc deux jours après, elle a témoigné devant tout le monde de cela. Il y a des fois des choses qui nous échappent. Le point important, c'est d'être sensible. Vous savez, aujourd'hui, Jésus, il a craché par terre, il a fait de la boue. Je ne sais pas si vous réalisez, il avait craché par terre, il a mis de la boue sur les trucs. Hein, aujourd'hui, on dirait, mais c'est pas propre, c'est pas hygiénique, c'est tout ce qu'on veut. Mais nous devons redécouvrir cette sensibilité au Saint-Esprit. Ce qui nous peut nous faire faire un geste, une parole, un regard. Un regard parfois qui peut être extrêmement... Je me rappelle une fois, c'était à Marseille, il y avait un jeune garçon démoniaque, malabar, qui voulait nous casser la figure en pleine église et avec l'autre pasteur. Et le gars nous a sauté dessus, vous l'avez lié, il voulait étrangler, il ne pouvait pas. Mais j'avais remarqué une chose, il ne supportait pas le regard. Il ne supportait pas mon regard. Et quand je l'ai regardé bien dans les yeux, je dis, regarde-moi. Alors il a fermé les yeux, il est obligé. Je n'ai pas le temps d'inciter, mais je veux dire, nous rayonnons. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à rayonner, à être des communicateurs, à être sensibles à la voix de l'Esprit, mais aussi sensibles à la direction, à la mouvance du Saint-Esprit. Nous devons redécouvrir ces choses-là. Amen.